Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous en direct dans cette émission. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur la 93.5. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Du 12 août au 12 octobre de cette année, l'Organisation africaine des consommateurs, OAC, organise une enquête de satisfaction sur les institutions bancaires dans ces pays membres et autres. C'est à travers l'initiative panafricaine dénommée Projet Enquête de Satisfaction Services Financiers 2025. Que ce soit l'accueil ou la satisfaction des services dans ces institutions financières, des plaintes récurrentes des consommateurs africains prouvent la défaillance constatée souvent sur ces deux aspects. À travers cette enquête, l'OAC envisage avoir des données scientifiques explorables ou exploitables, j'allais exploitables par ces institutions afin qu'elles prennent alors des dispositions en vue de concrètes améliorations. L'enquête a été officiellement lancée hier à Lomé. Nous allons en parler dans cette émission Club de la Presse puisque ça nous intéresse bien sûr. Nous allons en parler avec Dr Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo et aussi directeur exécutif de l'OAC, Organisation africaine à l'ordre des consommateurs. Et dans cette émission, nous allons en parler. Nous parlerons également d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 13 août 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa sur la mise en onde, Jérôme Dakoutia est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga, près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous avez aussi cet intérêt de nous suivre alors sur notre site internet www.canalfm.com, sans oublier nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi et là, vous comprenez que nous allons parler santé avec santé, éducation, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas Gadiel qui est là, mais Raymond Diakwata est là. Raymond, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, en pleine forme.
Et ça fait, comme on le dit, un moment.
Un moment.
Mais ce qui est sûr, on est là pour répondre encore à ce devoir qui est un devoir journalistique.
Oui.
Et c'est important. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes là, c'est parce que Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Santé Éducation, bien sûr, dans les kiosques ce matin. Et vous êtes revenu alors sur des sujets, surtout sur ces maladies qui sont récurrentes aujourd'hui, où on parle alors des risques des AVC et ou d'AVC. Alors, vous écrivez ce matin à la une de votre journal 5 pratiques contre le risque d'AVC. Alors là, on a l'intérêt justement de savoir quelles sont ces pratiques, Raymond.
Merci. Tout d'abord, je voulais parler de... Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup de personnes font des AVC. Avant, c'était beaucoup plus avec les jeunes. Et aujourd'hui, c'est carrément... Même les enfants font les AVC. Donc, il y a ce que nous appelons les facteurs de risque.
Tout à fait.
Donc, il y a l'hypertension, par exemple, qui est en vogue aujourd'hui dans nos communautés. Donc, déjà... Notre journal s'appuie sur les 5 pratiques que nous nommons parce que nous disons que c'est important. Et la première des pratiques, c'est de contrôler sa tension artérielle.
C'est important.
Que tu sois sujet d'AVC ou pas, il faut contrôler sa tension artérielle. C'est très important. La deuxième des choses, c'est de bouger, faire des activités physiques régulières. Au moins marcher 30 minutes par jour.
C'est-à-dire éviter la sédentarité.
Oui. Donc, le troisième point, c'est d'adopter l'alimentation équilibrée. De manger les fruits, les légumes et puis les céréales. C'est très important. Et limiter la consommation des aliments gras ou les aliments transformés.
Donc voilà. On parle des aliments aussi sucrés, aliments trop salés. Ça aussi, c'est des choses quand même qu'il faut éviter aujourd'hui.
Oui.
D'accord. Au-delà de ce titre très intéressant, je retrouve aussi un autre titre qui n'est pas moins intéressant. Vous parlez de la solitude et vous écrivez une alarme, enfin vous écrivez solitude, une alarme de déconnexion.
Oui. Aujourd'hui, c'est tout le monde peut dans sa vie à un moment éprouver de la solitude. Que tu sois entouré ou pas des gens, à un moment donné, on peut éprouver de la solitude. Et cette solitude-là, nous ne pouvons pas le voir comme étant une faiblesse, mais plutôt un cri d'alarme, de la déconnexion. L'homme, dans sa nature, est un être sociable. Il faut le reconnaître. Donc, comment gérer cette solitude
pour que... Aristote disait même que c'est un animal social.
Voilà. Donc, comment gérer cette solitude-là pour ne pas tomber dans la dépression et tout, c'est à découvrir dans notre article.
Mmh. Oui, mais justement, puisque c'est un problème récurrent aujourd'hui et qui, c'est vrai, tu sais que chez nous, il est difficile quand même qu'on commence par interroger l'individu alors sur les questions alors de psychologie, c'est-à-dire qu'on lui dise alors d'aller voir un psychologue et tout, parce que nous n'avons pas cela aussi dans notre habitude. Et c'est ce qui fait que finalement, quand vous voyez même la personne solitaire, automatiquement, ça nous amène à nous poser assez de questions.
Effectivement. Et c'est pour cela que Santé Éducation est là. Nous voulons toujours revenir là-dessus parce que à un moment donné, quand on arrive à découvrir les signes qui rend solitaire, que ce soit la personne même ou celui d'en face ou bien un proche.
Vraiment, est-ce que tu peux nous rappeler ces signes? C'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui est solitaire, alors quels sont justement visiblement ce qu'on peut constater dans la vie de cette personne?
Ok, physiquement, cette personne commence déjà, quand on parle de la solitude,
c'est-à-dire fait un retrait
retrait automatique qui est là. Et maintenant, au niveau, la personne peut avoir des troubles du sommeil. Le manque d'appétit, par exemple, c'est des signes physiques. Donc, c'est automatique, en fait. Maintenant, on ne dit pas forcément que ces signes renvoient directement à la solitude. Mais ce sont des signes qui alertent sur cette personne. Et si c'est un proche, déjà communiquer avec lui. C'est très important.
C'est très important, communiquer tout le temps avec la personne. Mais ben, il est important quand même de, d'être rassuré que, c'est la, que la personne est exposée à la solitude avant quand même de commencer par régler le problème ou ce qui doit être alors le fond alors de ce souci. Donc, soyons toujours très regardants envers les uns les autres pour que, du moins, c'est quand on sent justement qu'il y a ce retrait au niveau de l'individu, qu'on commence par l'interroger sur un certain nombre de choses parce qu'à un moment donné, il y a la déception, il y a l'anxiété, il y a les stress, hein, des stress qui nous envahissent aujourd'hui. Au-delà de cela, les gens pensent que, enfin, et c'est ce qui amène des fois les gens à ce retrait et qui donne la solitude telle que vous l'avez si bien dit. Alors, au-delà de cela, vous parlez de 7 conseils pour retrouver sa motivation. Je ne sais pas si c'est avec la solitude, c'est-à-dire celui qui souffre alors de la solitude, quand vous lui proposez 7 conseils pour que qu'elle retrouve alors sa motivation, c'est bien ça?
Pas forcément celui qui sent la solitude en lui. Il y a de ces moments où, dès le début même de l'année, nous nous souhaitons des vœux et on se dit que, bon, voilà, cette année, je veux jusqu'à la fin de l'année faire ceci. Donc, nous avons des objectifs fixés. Mais à un moment, on fait le mini-bilan, on voit que non, que ah, ça ne va pas. Et cette personne commence par manquer de motivation, de continuer à vraiment travailler ou à faire de son mieux pour arriver à cet objectif.
Ça fait partie de la vie humaine. Hein?
Voilà. Donc, comment maintenant arriver dès le moment où vous identifiez ce manque de motivation, il faut avoir des astuces pour se donner plus de motivation en réalité.
Du tonus.
Oui, voilà, du tonus pour continuer cette lutte-là de tous les jours. Donc, c'est à découvrir. Mais déjà, je vais parler de, par exemple, arriver à se féliciter soi-même et à être très indulgent envers soi.
Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est-à-dire arriver à se féliciter, tu sais que c'est quelque chose alors qu'il nous manque souvent, c'est-à-dire on a du mal à célébrer, à nous célébrer, c'est-à-dire ce que nous avons fait de bien, on a du mal à célébrer cela. Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi de notre éducation?
C'est vrai, dans notre éducation.
C'est-à-dire c'est culturel, c'est sociologique?
Oui, oui. Et par exemple, je donne un exemple. Votre femme fait une sauce, vous mangez, mais félicitez-la. Ça fait du bien à l'être humain, que ce soit moralement comme physique. Et demain, la personne fera mieux. Et c'est ça. Et surtout, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus les hommes qui n'arrivent pas à se féliciter soi-même. On est toujours dans cette lutte inlassable. Et puis, on n'arrive pas quand même à faire une pause et dire, mais jusqu'ici, bon, quand même, j'ai fait quelque chose de bon pour moi-même d'abord.
C'est-à-dire, des petits pas qui sont franchis, il est très important de célébrer ces petits pas.
De célébrer.
Mais il nous est très difficile alors de le faire. D'accord. Mais au-delà, oui, de célébrer ou du moins de se féliciter, qu'est-ce qu'on doit faire aussi?
Il faut rester dans le présent. C'est vrai qu'on veut, on a une vision et on veut atteindre cette vision. Mais il faut rester dans le présent. Reconnaître que nous vivons d'abord et profiter du présent, c'est très important.
C'est profiter de l'instant présent, bien sûr.
L'instant présent. Parce que les scientifiques l'ont démontré, que la plupart des personnes, quand ils ont une vision, une ambition, c'est clair. Mais il faut vivre le présent dans lequel on est. Parce que le présent, comme le dit le mot, c'est le présent. C'est ça qui est plus.
Et c'est ce que nous vivons.
C'est ce que nous vivons et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Le demain n'est pas vraiment le demain parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, il faut toujours vivre le présent.
Mais justement, ça aussi, c'est important parce que au-delà de tout, tu sais que nous, en tant qu'humains, nous avons des ambitions, telles que vous l'avez dit tout de suite. Et des fois, avec ces ambitions même, on s'oublie et on oublie même d'ailleurs qu'on doit vivre la vie ou on doit vivre le présent.
Oui.
Et ça, il faut corriger ça.
Il faut corriger cela. Et aussi, je vais ajouter, il y a un point et décomposer aussi nos tâches de chaque jour. C'est vrai que nous voulons tout faire, mais au même moment, il faut décomposer et essayer de prendre les tâches qui sont plus nécessaires avant l'autre, parce que c'est ça. Il faut avoir les priorités.
Pour qu'on ne pas faire une hiérarchisation même d'ailleurs de ces priorités et arriver à les accomplir petit à petit.
Oui.
Pour que du moins on arrive à chaque fois qu'on arrive à accomplir une tâche, il est important de célébrer aussi cette victoire.
Oui.
Ami parcours, comme on le dit, ou ami étape. Merci. Voilà, autre chose, hein, bien sûr. Vous parlez des astuces pour gérer sa mauvaise humeur au travail. Et ça aussi, c'est important, un article important que vous nous proposez.
Ok, gérer sa mauvaise humeur au travail. On n'est pas sans doute savoir que, bon, voilà, on peut se réveiller un matin et puis ne pas être de bonne humeur. Et on arrive au boulot. Il faut arriver à identifier d'abord qu'est-ce qui m'a amené à être de mauvaise humeur. Et maintenant, essayer de discuter avec les autres. Le fait de discuter avec les autres déjà nous donne cette chance-là de se reconnecter aux autres automatiquement.
Et des fois de savoir que, mais en fait, la situation que je vis, ce n'est pas une situation particulière, hein, que c'est personnel et que peut-être l'autre aussi vit cela.
Voilà. Et comme je le dis souvent aussi, au-delà de tout, il n'y a pas pire que moi. Il y a toujours pire devant. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément de vous qu'il s'agit, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui passe dans ces moments-là. Et peut-être en discutant, vous allez trouver un point d'accord et puis qui va vous aider aussi à sortir de cette mauvaise humeur. Et donc, ayez aussi une attitude positive.
Mentalement.
Mentalement. C'est vrai qu'on est de mauvaise humeur, mais se dire que bon, ça va aller.
C'est très important. Se donner du courage.
Voilà, c'est très important. Maintenant, du moment où vous faites ces astuces, ça ne marche pas, il faut demander de l'aide. On n'a pas l'habitude, comme vous l'avez dit au début, on n'a pas l'habitude d'aller vers les psychologues et tout, parce que ce n'est pas dans notre culture de le faire, mais avec le temps, il faut s'ouvrir à quelqu'un de très proche qui peut vous comprendre. Et si ça ne va pas toujours, bon, là, vous êtes obligé d'aller vers un psychologue.
Mais le fait, vraiment, tu sais, d'habitude, le fait juste, alors de raconter sa situation à quelqu'un, tu sais que ça soulage.
Oui.
Ça soulage. Et
ça
là,
soulage beaucoup.
Justement, et ça fait que. Et c'est aussi une guérison en soi. C'est une guérison en soi. Et il est très important de rencontrer des gens en qui nous avons confiance et de leur raconter justement notre situation pour que s'il y a justement une aide à donner, que nous recevions cette assistance de cette personne.
Voilà.
Alors, au-delà de ces astuces, est-ce que vous avez encore d'autres astuces pour que nous gérons nos mauvaises humeurs au travail?
Ah, je préfère envoyer les lecteurs vers notre journal.
Tout à fait.
Pour découvrir cela.
Tout à fait. Je pense que c'est bien normal, puisque le journal est écrit pour que du moins les uns et les autres puissent lire et découvrir aussi tout ce que vous avez mis dans le journal Santé Éducation. Et nous venons alors de faire un aperçu alors de ces articles. Merci vraiment d'être passé alors dans cette émission. Et si nous voudrons avoir votre journal en papier, un PDF, quelles sont les conditions?
Le journal papier est déjà disponible dans les kiosques et pharmacies au prix de 500 francs CFA et sur notre site web pour les amoureux du digital. Donc c'est toujours à 500 francs aussi. Notre site web www.santé-education.tg.
Raymond Diakwata, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous êtes journaliste à Santé Éducation. Merci d'être passé.
Merci à Pascal.
Merci. Et sans transition, Emmanuel Sogadi, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour auditeur, auditrice de la radio Canal FM.
Et je ne sais pas si vous êtes alors de bonne humeur ce matin. Ce qui est sûr, nous venons alors de parler de l'humeur. Et on a besoin quand même de cela pour faire du bon travail.
Oui, moi je suis toujours de bonne humeur et ceux qui sont autour de moi et qui regardent mes activités, je n'ai pas de moment où je me rends frustré. J'ai décidé de me rendre toujours heureux parce que le bonheur, on le crée soi-même. Personne ne pourra venir te créer le bonheur. Parce que ce qui est bonheur pour moi peut ne pas être bonheur pour l'autre. Et donc ce que j'ai en face de moi et ce que j'ai à ma possession me suffit largement pour que je puisse dire que ah, je suis heureux. Il peut arriver où, à certains moments où on sort confronté par les difficultés de la vie. Mais quand vous retournez autour de vous et dans l'histoire et dans l'espace, vous direz que vous n'êtes pas le seul à avoir des soucis de la vie. Et donc, quand vous vous rendez compte qu'on n'est pas le seul à avoir les soucis de la vie, ça veut dire que le souci que vous avez aujourd'hui va passer et Dieu, la Dame Nature, la Providence, vous amènera à d'autres événements plus heureux que ce que vous aurez pensé par rapport aux situations de la vie courante. Mm. Et donc, pour moi, en tant qu'Emmanuel, je me rends toujours heureux et je me force à ce que toute ma famille se rendre compte que tout ce que nous avons nous suffit largement pour être heureux. Quand vous vivez, il faut se dire que vous êtes heureux. Mais quand on ne vit pas, c'est vrai que quand on ne vit pas, on ne peut plus l'apprécier. Mais quand on vit, bien on est en bonne santé, c'est le plus heureux, la plus heureuse situation possible que l'on peut avoir sur cette terre. On peut avoir toutes les richesses de ce monde, mais on ne sera jamais heureux. Mais quand vous avez la bonne santé, parce que l'argent n'achète pas la santé. Oui, vous pouvez avoir l'argent pour aller à l'hôpital et être guéri par moment, mais quand vous voulez vivre éternellement, l'argent ne vous le donnera pas. Mais quand vous voulez vivre et être tranquille avec votre esprit, créez ce bonheur vous-même. Et je peux dire, pour répondre à ta question, je suis toujours heureux de tous les jours que Dieu fait.
Oui, c'est vrai qu'avec Raymond, tout de suite, on parlait du fait que nous n'arrivons pas à nous féliciter pour ce qui concerne même d'ailleurs des petits pas que nous avons franchis. Il est important alors de nous féliciter. Et je le disais, j'évoquais même d'ailleurs cette question culturelle et aussi éducationnelle, même pourquoi pas sociologique. Mais est-ce que finalement, ça, nous n'avons pas raison quand même d'évoquer ces aspects qui font que finalement, on n'arrive pas à s'apprécier?
Peut-être nous, au Togo, on a hérité d'une éducation à la française où on veut faire tout comme bureaucratie. Donc, ce qui fait que tout ce que nous avons tout autour de nous, comme ce n'est pas dans les normes de ce qu'on fait à l'occidental, on n'arrive pas à croire qu'on est en train de faire de bonnes choses. Et ce qui fait que des gens ne s'apprécient pas et ne se félicitent pas de ce qu'ils font. Bon, on sait que ce n'est pas facile. C'est comme on le dit souvent en langue locale que s'apprécier. Tu peux pas danser s'apprécier soi-même.
Tout à fait.
Donc cette citation-là fait que on a tendance à ne pas vouloir s'apprécier soi-même. Mais je peux dire avec ce qui s'est fait aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les psychologues peuvent nous démontrer le contraire. Quand quelqu'un se met devant son écran et commence par chanter, à danser, vous pensez pas qu'il n'est pas en train de s'apprécier lui-même. Il s'apprécie lui-même. En s'habillant très bien, ses habits de dimanche, bien endimanché, et devant l'écran, il commence par chanter des chansons qui lui font plaisir. Donc, il s'apprécie lui-même. Et donc, les réseaux sociaux nous ont amenés sur ce terrain. Sauf que dans les pays anglo-saxons, ou par exemple dans les États-Unis, les pays anglophones, par exemple, vous avez vu que peut-être les gens ont tendance à organiser des événements où on fait la décoration aux gens, même si c'est dans une association, et vous verrez qu'ils reviennent avec des écharpes au cou. C'est quoi? C'est juste pour leur dire, on vous félicite. Même si vous-même, dans votre association, vous vous rendez compte que vous ne faites pratiquement rien, le principe vous gratifie en donnant le même tableau d'honneur ou bien le même symbole honorifique que vous aussi vous mettez au cou. Et quand vous revenez, vous accrochez ça au mur. Donc, quand vous remarquez dans le pays francophone, par exemple, vous ne verrez personne afficher son diplôme dans sa chambre. Mais par contre, dans le pays anglophone, tous ceux qui ont leur diplôme, même BPC, même probatoire, même tatana, bon, il n'y a pas probatoire dans ces pays, mais même BPC, BAC, ainsi de suite, les gens les affichent pour dire que j'ai tel diplôme. Et donc, or, chez nous, on n'a pas cette culture de le faire pour se congratuler. Mais oui, nous, on les laisse dans les valises et quand on a besoin, on va les scanner, on va les photocopier, on vous fait des demandes d'emploi. Mais on ne les valorise pas en tant que richesse que nous avons eue, hein, en tant que parcours professionnel, en tant que parcours de formation académique ou bien universitaire. Mais par contre, dans les pays anglophones, ils le font. Donc on peut pas dire que c'est un péché. Mais bon, au fur et à mesure que le monde évolue, nous sommes condamnés à nous en rendre compte que nous avons l'obligation de se congratuler, de se féliciter de ce que nous faisons. Mais on va pas demeurer dans la médiocrité. Donc vous voyez, parce que quand on te félicite, ça veut dire qu'on veut que tu fasses mieux, davantage. Je dis que, Pascal, vous faites très bien votre émission. L'objectif, c'est que vous fassiez mieux davantage que ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. Et que ce que vous faites, que ça puisse impacter davantage. Donc, c'est pour ces raisons que les congratulations, les félicitations doivent impacter davantage.
Oui, mais monsieur Soudi, c'est vrai que vous faites bien d'évoquer les réseaux sociaux parce que, et aussi pour cette question alors de satisfaction, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on remarque plus des slogans tels que Adolé Ouo et aussi Blekeken. Quand tu écoutes justement ces slogans, est-ce que ça reflète la réalité?
Vous savez, c'est pourquoi je voudrais dire, quand vous observez tout autour de vous, quand quelqu'un avance un mot, le mot devient, qu'est-ce qu'on veut dire, un phénomène. Okay? Ce phénomène où tout le monde va utiliser. Quand ils vont l'utiliser, comme par exemple, Egbele Kinking, ça veut dire que tout le monde s'en rend compte que Egbele Kinking, dans la situation dans laquelle la personne est, ou bien dans la situation générale.
Pour dire que c'est totalement gâté.
C'est totalement gâté. Par exemple, on est en train de causer, on s'en rend compte, on est en train de causer de quelqu'un, par exemple, on est en train de faire béret, le papato, et on s'en rend compte que la personne de qui nous parlons, la personne est arrivée. Ou bien la personne s'approche. On dit quoi? L'histoire de dire que on nous a eu. Ok? Donc, c'est une manière de dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est la personne qui est devant nous. Ou soit, on est en train d'attendre. Et on a l'espérance que quelque chose va arriver, qu'on va nous payer en fin du mois. On ne l'a pas fait. Les fleurs n'ont pas tenu à la promesse. Même les fruits n'ont pas tenu à la promesse des fleurs. Okay? Donc, on attend une autre situation. Adolé Ouo, quand on a faim. C'est que aujourd'hui, tout le monde, toutes les langues, on prête toujours des mots aux mots français.
Et finalement, c'est des mots passe-partout.
Passe-partout. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Quand les Ivoiriens ont commencé à parler de Goumé, moi à l'époque, je ne comprenais pratiquement rien. J'avais posé la question à quelqu'un, la personne me disait que. Elle cherchait à m'expliquer, mais je n'avais pas vite compris. Donc c'est après que je me suis dit, quand on dit que tu as Goumé, c'est que quoi? Comment on va l'interpréter?
Non, mais tu as une déception amoureuse.
Déception. Oui. Déception. Donc, et les Gberé, des gens aujourd'hui, des gens parlent le français, ils disent que tu as lu Gberé. Mais malheureusement, Gberé, ce n'est pas français. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les langues aujourd'hui commencent par prêter des mots à la langue française. Les académiciens vont nous en parler, les littéraires peuvent nous en édifier davantage. Mais je peux dire que chaque mot reflète une situation. Les Egbele Kekim, les Adolé Ouo, bien Adolé Oumi, tout ça là reflète une situation.
Oui, justement, cette situation,
apporter des solutions.
Oui, je veux bien parler alors de cette réalité. Est-ce que c'est justement ces mots sont conformes à la réalité? C'est vrai, aujourd'hui, je vous pose la question en tant que président de la LCT et aussi directeur exécutif de l'OAC, c'est-à-dire l'Organisation africaine alors des consommateurs. Aujourd'hui, quand on prend l'Internet, on a du mal quand même à avoir l'Internet en totalité et puisqu'il y a cette restriction qui est autour de la chose. Et donc, est-ce que finalement c'est des mots qui reflètent justement cette réalité? Au-delà même d'ailleurs de l'Internet, il y a d'autres problèmes. Il y a la question de l'électricité aussi qui est là.
Merci, vous avez touché un sujet très, très capital, très important pour les auditeurs, auditeurs et pour nous, la LCT et toute organisation de consommateurs. Parce que des gens, quand les gens nous interpellent, ils oublient que nous sommes autant consommateurs qu'eux. Et que d'ailleurs, même nous utilisons plus l'Internet qu'eux. Nous ne disons pas que nous sommes les super consommateurs de l'Internet, mais nous utilisons davantage la plupart des choses que nous faisons. Nous utilisons Internet. Et sur l'aspect de l'Organisation africaine des consommateurs, moi, je ne peux pas échanger avec les collègues si ce n'est pas de l'Internet. Même si je peux appeler, faire des appels directs, on utilise l'Internet aussi parce que moi, je ne comprends pas toutes les langues des autres collègues dans leur pays. Donc, il arrive où nous utilisons l'Internet pour traduire les échanges que nous faisons, les messages que nous faisons pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, la restriction de l'Internet au Togo depuis bientôt 2 mois a été fatale pour nous tous. Et nous, si des gens se rappellent très bien, nous avons fait une sortie, déjà 3 sorties qu'on a déjà eu à faire, pour demander à l'autorité de rétablir ces restrictions. Vous savez, en 2017, l'autorité n'avait pas incorporé cet aspect-là dans son enseignement juridique. Et donc, quand la connexion, à l'époque, c'était une coupure. Quand la coupure a été faite, nous, organisations de consommateurs, d'autres acteurs de la société civile et des activistes, et on s'était associés, on est allé porter plainte devant les tribunaux à Abuja. Et heureusement, la justice, la cour communautaire nous a donné raison en disant, l'État, tu n'avais pas le droit de couper. Parce que dans ton enseignement juridique, rien n'est prévu en ce sens. Maintenant, quand les autorités sont revenues, et elles sont revenues pour introduire, faire des réformes, je ne sais pas comment dire, prendre d'autres arrêtés pour dire que, il y a tel aspect de
la loi ou
d'atteinte à la sûreté de l'État, d'ainsi de suite, d'ainsi de suite, l'État peut demander la restriction ou bien peut ordonner la restriction. Donc, ça veut dire que l'État a aménagé le cadre juridique en sa faveur, alors que c'est à notre détriment, nous, les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, la restriction, en tout cas, je peux bel et bien dire, confirmer que ça ne profite pas à l'État. Pourquoi je le dis? Parce que quand il n'y a pas la restriction, quand nous utilisons la connexion Internet pour faire des lives, pour vendre des activités, ainsi de suite, pour faire des formations à distance, ainsi de suite, l'État a toujours son retour. En termes d'imposition fiscale, il y a une entrée des recettes au niveau de la fiscalité que l'État met dans sa caisse pour faire fonctionner le pays. Mais quand nous autres, nous déboursons de l'argent pour acheter la connexion Internet et que nous n'arrivons pas à jouir de cette connexion Internet, c'est une perte également pour nous qui sommes des citoyens pour l'État, que l'État lui-même est appelé à protéger et à défendre en matière de droits de la consommation. Parce que le tout premier défenseur des droits des consommateurs, c'est l'État. Nous, on n'est que des organisations qui travaillons, qui sont des organisations de veille citoyens qui attirons l'attention de l'État pour dire vous n'avez pas le droit de faire ceci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Mais quand la restriction dure plus d'un mois, mais en réalité plus de quelques jours, ce n'est plus une restriction. C'est qu'on a coupé une partie de la connexion Internet. Donc ça devient une coupure. C'est vrai que ce n'est pas nous qui en avons interprété, mais nous donnons l'interprétation de ce que nous pensons de cette disposition-là. Et c'est le juge qui pourra dire à l'État, vous n'avez pas le droit de faire une restriction sur cette longue période. Quant à cela, on a vu des gens dire les raisons qui ont poussé l'État à faire la restriction. Jusqu'à l'heure où nous parlons, l'État n'a sorti aucun communiqué pour dire que ça provient de moi. Mais les échanges que nous avons eus, parce que les opérateurs aussi se plaignent, parce que c'est une perte à gagner pour ces opérateurs. Vous savez que ceux qui ont l'habitude d'acheter la data hier, plus de 1000 francs par mois, par semaine, ils n'achètent plus. Parce que quand vous achetez, vous ne jouissez pas pleinement de ce service-là. Donc, vous résignez à ne plus acheter. Et c'est une perte économique pour ces entreprises de télécommunications. Donc, quand eux, ils ne roulent pas bien, c'est difficile pour qu'ils puissent ils puissent être à l'aise en payant leur redevance à l'État.
Alors, monsieur Soukadi, devant cette restriction, qu'est-ce que le citoyen ou le consommateur doit faire?
Le citoyen, ce que le citoyen doit faire, c'est de s'indigner. Et en s'indignant, c'est d'interpeller l'État pour que l'État puisse se rétablir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des autorités politiques, gouvernementales, administratives, chacun à son niveau. Maintenant, tous ceux qui se plaignent ont des relations, certaines relations étroites ou non, avec ces autorités-là. Donc, continuez pas à tirer leur attention pour dire que nous avons besoin que vous rétablissiez la connexion Internet parce que nous payons et nous déboursons pour ça. Vous savez, il arrive des fois où on n'est pas obligé de dire certaines choses sur les médias. Mais quand la situation s'y prête, on est obligé d'en parler. Quand l'État dit que c'est à cause des manifestations sociales lancées par des Togolais activistes que nous avons coupé l'intercept. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas une décision, c'est-à-dire ils n'ont pas fait de communiqué. Donc, c'est ce que nous sommes en train de lire. Okay, parce que sans ces mouvements...
On connaît le contexte dans lequel cette restriction
a été faite. Donc, quand l'État le fait ainsi, mais est-ce que depuis cette date, jusqu'à la date d'aujourd'hui où nous sommes en train de faire cette émission, il y a eu encore des manifestations? Non. Donc, on pouvait faire une restriction à une période bien précise et relâcher pour que les citoyens que nous sommes, nous ne continuions pas à jouir des services que nous prenons notre argent pour acheter. Parce que, excusez-moi, ce n'est pas l'État qui achète la connexion Internet aux citoyens. Nous achetons et l'État nous impose. Parce que le prix de la consommation de la data, indirectement ou directement, il y a les prélèvements de taxes que les préparateurs prélèvent pour rembourser la redevance qu'ils payent en fin d'année à l'État. Et donc, c'est pour cela que nous disons que quand la restriction dure, ce n'est plus bien. En réalité, ça ne devait pas avoir, on ne devait pas avoir de restriction. Mais quand vous l'avez faite, il ne faut pas l'inscrire dans le temps, bien dans la durée. Ça dure trop. Et c'est pour cette raison que dans nos sorties, nous avons demandé à l'État de rétablir. La dernière sortie date du 4 de ce mois où nous avons dit sur nos pages des réseaux sociaux que nous demandons à l'État, au chef de l'État, de bien regarder la situation pour ordonner que la connexion Internet soit rétablie. Et donc, c'est pour ça que nous avons reçu des interpellations, sauf que des gens font des interpellations sans s'en rendre compte qui est l'auteur. Par exemple, des interpellations du genre où on me dit que c'est le régulateur qui aurait ordonné. Le régulateur veille à l'application des lois et des dispositions prises par l'autorité
politique. Vous parlez de l'ARCEP.
C'est ça, le régulateur veille pour ça. Maintenant, quand c'est une décision qui vient, qui est une disposition qu'on a intégrée dans un enseignement juridique, le régulateur ne pourra plus faire quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ces raisons que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous continuons toujours à dire à l'autorité il faut rétablir.
Justement,
parce que c'est le cadre juridique qui doit nous protéger, sur la base duquel le gouvernement a donné une ouverture pour dire que l'État peut. Maintenant, quand on dit l'État peut, ce n'est pas le peu là, ce n'est pas dans la durée que ça doit s'inscrire.
Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté, vous, les organisations surtout de la société civile qui êtes aussi des défenseurs de ces consommateurs? Parce que oui, vous avez commencé par le dire depuis, mais ça perdure la situation.
Vous savez, si je vous dis qu'on n'est pas écouté, je suis en train de vous tromper. Parce que cette émission, elle est écoutée partout, même à la présidence de la République, à l'intérieur du pays. Donc ça veut dire que ce que nous disons ici, si nous sommes venus pour insulter, à la sortie, on viendra nous prendre. Parce qu'on est venu insulter quelqu'un sur votre média et on vous dira que vous n'avez pas pu encadrer votre invité. Mais nous ne sommes pas venus pour insulter. Donc nous sommes venus pour donner notre point de vue et dire à l'autorité que c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que les citoyens demandent que nous ont rapporté et que nous sommes en train de vous rapporter à travers nos prises de position publiques. Maintenant, quand rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui, des gens doivent savoir que ce n'est plus la responsabilité des organisations de consommateurs qui n'ont pas fait quelque chose pour qu'on puisse rétablir la connexion Internet. ce n'est plus peut-être un acteur pris isolément qui aurait empêché, mais que c'est l'autorité politique qui aurait ordonné. Parce que les opérateurs, quand c'était, je peux vous dire quelque chose, si c'était les opérateurs qui avaient fait ces restrictions, le gouvernement lui-même aurait déjà sorti un communiqué pour dire qu'il ordonne à ces opérateurs-là de lever la restriction. Parce qu'il arrive des fois où l'opérateur peut faire, hein, parce que l'opérateur est en train de faire une négociation pour faire le chantage, il dit n'importe quoi, hein, je ne dis pas que c'est dans le cas togolais, pour faire le chantage, pour le gouvernement pour dire il faut faire une petite restriction pour que les citoyens puissent commencer par crier et que crier sur le dos de l'État pour que l'État puisse dire « Ah, si c'est comme ça, je te concède ce que tu es en train de revendiquer. » Ce sont des cas qui sont possibles. Mais dans le contexte précis, ce n'est pas, hein, ce n'est pas les opérateurs qui l'ont fait. Et donc, c'est pour cette raison que nous disons ces autorités-là, ils nous écoutent bel et bien. Parce que quand on parle de VPN, qui, des Togolais, savait qu'il faut VPN pour être présent pendant 10 minutes avant que ça ne coupe et revenir sur les réseaux sociaux? Personne ne le savait. Nous étions tous sur les Facebook, sur les TikTok, sur les Instagram, ainsi de suite. Mais quand on a sur les YouTube, mais quand on a commencé à se sentir que il y a des restrictions sur ces réseaux sociaux là et qu'on n'arrivait pas à jouer pleinement, on a commencé par crier. Et donc c'est pour ces raisons que nous disons que nos autorités là, elles nous écoutent bel et bien. Sauf que elles n'ont pas encore pris conscience de ce que nous sommes en train de dire et des pertes économiques que nous sommes en train de tout le monde est en train de parler, dont tout le monde est en train de parler. Quand ils seront conscients de ces pertes économiques-là, pour dire que ces pertes-là, ça pénalise et mes citoyens et moi-même, elles vont rétablir. Alors, Au cas contraire, ça c'est de la mauvaise foi.
Quand je vous dis que non, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté? Alors, c'est ne pas juste alors écouter, entendre, non. Mais quand on écoute, c'est-à-dire on agit aussi. Et c'est cette action-là que nous ne retrouvons pas. Donc, c'est pour cela que je pose cette question.
C'est pourquoi je dis, quand on écoute, on ne réagit pas, ça devient de la mauvaise foi. Parce que l'essentiel dans la vie sur cette terre, c'est que quand vous ouvrez vos oreilles et vous entendez quelque chose, vous l'intériorisez et vous prenez ce qui est essentiel dans ça. Et vous mettez en œuvre ce que vous avez écouté. Au cas contraire, le plus souvent, quand on nous dit, quand on t'appelle, on ne refuse pas l'appel. C'est ce qui est dans l'appel qu'on refuse. Quand vous écoutez quelque chose, ce n'est pas le fait d'écouter qui est le problème, c'est le fait de mettre en œuvre qui est le problème. Maintenant, quand ça cause des problèmes, ça veut dire que ceux qui écoutent, qui ne mettent pas en œuvre ce qu'ils écoutent, qui sont alors de la mauvaise foi.
Mais justement, je discutais avec quelqu'un tout récemment et il me disait que, mais sous d'autres cieux, c'est vrai que dans ce cas, un cas précis, on pourra même porter plainte contre l'État ou contre X au niveau alors de la justice. Mais les Togolais, pour le cas togolais, on t'a toujours fait quelque chose de ce genre, puisque ce n'est pas la première fois quand même qu'on observe quelque chose de ce genre.
Non.
Mais est-ce que c'est un cas particulier du Togo ou un cas typique?
Pascal, peut-être celui qui a fait cette déclaration a oublié le passé. Je viens de faire un petit rappel de ce passé. En 2017, le cas juridique togolais ne permettait pas à ce qu'on fasse de coupure en 2017. Il n'avait aucun droit absolu. Même aujourd'hui, ce n'est pas un droit absolu pour qu'il puisse faire de restrictions. Maintenant, le plus souvent, quand vous allez devant le juge, Le juge va, même si vous ne donnez pas les arguments solides, le juge est obligé de chercher les tests qui sont à votre avantage. Et va juger, et va prononcer son jugement en faveur, bien en conséquence. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez devant le juge, la justice togolaise, le juge va dire, dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, l'État dit qu'il y a. Que l'État peut faire une restriction par rapport à l'arrêté, bien à telle disposition que l'État antérieurement a pris en 2022. Je crois que c'est déjà 5 ans.
Oui.
Donc, ils ont pris le temps de modifier ces dispositions-là. Donc, aujourd'hui, les dispositions ne nous avantagent pas. Mais en réalité, quand on va porter plainte au tribunal, le juge peut, sur la base de la durée de cette restriction, se prononcer en faveur de ceux qui peuvent porter plainte. Mais troisièmement, je ne dis pas que la justice togolaise n'est pas indépendante. Mais nous avons des preuves que les plaintes que nous avons déposées devant les tribunaux au plan national n'ont pas prospéré. Et donc, ce n'est pas un facteur qui encourage quelqu'un encore à aller devant les tribunaux sur les aspects du droit de la consommation, par exemple. Et dans le cadre du dossier Petrogate,
oui.
nous avons demandé aux Togolais de nous aider. Quand on est allé faire ce conseiller en partie civile, on a fait fixer une caution de 300 000. La LCT avait demandé aux citoyens de nous aider à obtenir les 300 000. On a obtenu 301 000 à l'époque et on a arrêté les contributions. Et quand on est allé, on a déposé cette plainte-là. Je peux vous dire que cette plainte-là a été classée sans suite. Alors qu'ils ont pris notre caution de 300 000, ils ne nous ont même pas signifié que le dossier a été classé sans suite.
Comment ça?
Je t'ai dit, je suis devant toi, je suis l'acteur principal de ceux qui sont allés se constituer en partie civile au nom des consommateurs togolais. Donc nous n'avons même pas, c'est notre avocat qui nous a informé après que selon ces investigations, c'est ça. Sinon depuis 2000, si ma mémoire est bonne, bientôt déjà 4 ans, on n'a jamais eu une signification du tribunal pour dire que votre dossier a été classé sans suite parce qu'il n'y a pas de preuves, ainsi de suite, pour que nous puissions dire nous allons fournir davantage de preuves. Non.
Enfin, finalement, ce sont des situations quand même qui n'encouragent pas le citoyen à aller devant les juridictions.
C'est ça. C'est pourquoi je voulais dire à ceux qui pensent que les organisations de consommateurs ne font rien là, que peut-être ils ont raison de penser comme ça parce que c'est comme ça qu'ils ont compris. Une organisation de consommateurs n'est pas un département ministériel, ni non plus un ministère, non plus une autorité, mais une organisation de consommateurs est une association qui veille, qui joue le rôle de veille citoyen pour dire, qui fait des recommandations, qui fait des investigations et qui prend des positions publiques. Donc, ce qui fait que nous sommes condamnés à publier nos prises de position. Ce n'est pas une entente entre une autorité et nous en catimini, non. Donc, on peut faire des rencontres, mais quand il s'agit d'une position de ce genre, on la rend toujours publique. De telle sorte que les citoyens, y compris les autorités, s'en rendent compte que c'est ça. Ce qui fait que des fois, quand ils doivent nous consulter pour poser certains actes, ils ne nous consultent pas. Parce qu'ils savent que quand ils vont nous consulter, on ne va forcément pas accepter ou bien prendre part à cette position que le gouvernement souhaiterait prendre, que nous peut-être on estimerait être contre les consommateurs ou les citoyens. Donc que les consommateurs comprennent que pour rendre davantage les organisations de consommateurs crédibles, plus professionnelles, c'est eux qui doivent nous accompagner en nous saisissant, en nous donnant des informations crédibles et en adhérant massivement aux associations de consommateurs. C'est pour ces raisons que je voudrais de passage féliciter tous les collègues de l'intérieur du pays, de Lomé et des bénévoles qui ne cessent de nous apporter, excusez-moi, leur appui de toutes les manières et de toutes les façons pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous souhaitons être davantage demain.
Ce qui est bien, c'est que nous sommes devant le directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs. Et là, c'est un honneur quand même pour un Togolais d'occuper alors cette place. Alors, au regard de ce qui se passe alors dans les autres pays, est-ce que pour ce qui concerne la lutte ou la défense des consommateurs, est-ce que le cas togolais est atypique?
Je veux dire, mais les Togolais, les concitoyens ne vont pas croire. Vous savez, ce n'est pas fortuit que sur plus de 44 organisations de consommateurs à travers 39 pays de l'Afrique, on ait pris un Togolais pour être directeur exécutif de cette organisation. Et à la création, il y a une organisation, l'ATC, qui était membre fondatrice de cette fêtière. Et c'était en 2015 au Tchad. Et quand vous observez autour de vous à travers ce que les autres collègues font dans notre pays, je peux vous dire, c'est vrai que au début on a parlé de il faut qu'on se félicite, qu'on reconnaisse des efforts de soi-même. Je peux vous dire que les organisations de consommateurs du Togo font un travail très louable. Malgré les difficultés dans lesquelles Hein? Elles évoluent. Institutionnelles, finances, tout. Hein? Mais elles font un travail louable. Moi, depuis que j'ai commencé cette coordination avec les autres organisations de consommateurs, dans tout le continent, c'est dans le Maroc, au Maroc seul que vous avez que cette organisation a un budget annuel qui mène les activités de janvier à décembre. Et mais quand il y a restriction budgétaire, elle est contrainte de ne pas mener des activités. Mais nous, de janvier à décembre, nous arrivons à nous prononcer sur des sujets qui surviennent partout et sur tous les secteurs. Et c'est pour ces raisons que nous, au Togo, on n'est pas des organisations qui ont leur bureau dans les valises. Aujourd'hui, quand vous allez, vous appelez ATC, vous irez chez eux à leur siège. Quand vous appelez LCT, vous venez chez eux à leur siège. C'est déjà des efforts qui se font. Et c'est pour ces raisons que nous disons, encouragez-nous, même si vous n'avez pas les moyens pour nous donner, dites qu'on vous félicite, donnons des informations sur des sujets qui vous intéressent et on pourra se constituer pour être un intermédiaire, pour qu'on rétablisse votre droit. Mais quand vous croisez les bras et quand vous êtes là à nous dire que vous ne faites rien, je veux leur dire une fois encore que nous ne sommes pas un département du gouvernement. Nous ne sommes pas une institution de l'État. Les institutions de l'État ont des budgets qu'ils gèrent. Nous n'en avons même pas. Donc que des gens savent que nous sacrifions notre vie professionnelle, notre temps, aussi bien que nous devons consentir pour faire des activités plus professionnelles et être riche demain, parce que tout le monde veut devenir riche. Même si on ne veut pas devenir riche autant que tout le monde de la même manière et de la même façon, mais tout le monde veut avoir de l'argent sur cette terre. Et donc, encourager les organisations de consommateurs, encourager les jeunes qui viennent nous aider, qui vont nous relayer hein, demain pour qu'ils puissent s'engager durablement dans cette activité. Parce que le consumérisme, en réalité, le mouvement consumérisme n'est pas encore si fort. Vous avez vu peut-être sur certains sujets, on va dire vaccination et on va dire environnement. Ce sont des sujets qui intéressaient depuis des années le continent. Mais c'est vrai que depuis 1963 qu'on a commencé par parler de droits de consommateurs, mais ce n'est pas encore intériorisé. Moi, je me félicite que quand on a commencé, quand nos collègues ATC ont commencé, quand nous sommes venus, aujourd'hui, on reçoit des plaintes aussi bien à travers nos réseaux sociaux, les TikTok, les Facebook, les LinkedIn et les sites web. Les gens nous saisissent. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le monde évolue, les gens s'en rendent compte que on peut pas être enfermé chez soi et dire que les gens ne font rien. Saisissez-les, approchez-les et dites ce dont vous aurez besoin, ce que vous aurez pensé de la manière dont vous estimez qu'ils puissent procéder.
Emmanuel Sogadi, nous allons nous intéresser à ce sujet que j'évoquais déjà au début lors de mon émission. Et on sait que du 12 août au 12 octobre, de cette année, l'Organisation africaine des consommateurs, OAC, organise alors une enquête de satisfaction sur les institutions bancaires dans ces pays membres et autres. Et c'est à travers l'initiative panafricaine dénommée Projet Enquête de Satisfaction Services Financiers 2025. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est?
Vous vous souvenez qu'en 2024, nous avons organisé une conférence de presse de publication d'un rapport sur le niveau de satisfaction des consommateurs des services financiers, banques et microfinances au Togo. Quand nous avons publié ce rapport, ça a émerveillé la plupart de nos collègues des autres pays. Et le conseil d'administration de l'OAC, de l'Organisation africaine des consommateurs, a décidé qu'on puisse faire désormais ce rapport dans l'espace continental. C'est-à-dire que les organisations qui sont membres dans les pays puissent se porter garant de pouvoir implémenter cette enquête dans leur pays. Et quand on a commencé, on s'est dit qu'il faille qu'on puisse le faire, et que ce ne soit plus seulement au Togo qu'on le fasse. Et ce qui a amené, le CIA a décidé de faire d'une manière que l'enquête qui va se dérouler au Togo se déroule concomitamment dans les 39 pays du continent. Et aujourd'hui, l'objectif visé, c'est quoi? C'est de produire des données scientifiques, quantifiables, professionnelles, qui peuvent être exploitées par les institutions de microfinance et les banques. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à dire que les gens font ceci, sans qu'on arrive à les documenter.
Or, la documentation, elle est très, très, très importante quand vous voulez faire des plaidoyers. Quand vous voulez faire des plaidoyers, vous ne faites pas la documentation, ça ne vous avantage pas. Et donc, nous allons produire des rapports, faire des recommandations, et ces rapports seront domestiqués. Qu'est-ce que j'appelle domestication? Bien agrégé. Qu'est-ce que j'appelle ces données agrégées? C'est que ce n'est pas seulement un rapport global. Non. Quand vous êtes au Togo, vous répondez au questionnaire qui est en ligne. Vous choisissez que vous êtes au Togo. Et les questions qui vous seront posées seront typiquement que des questions qui concernent les institutions et les microfinances du Togo.
Alors, quel genre de questions, par exemple?
Par exemple, quels sont les critères qui vous amènent à dire que vous êtes bien accueilli dans une institution financière, par exemple? Quelqu'un dit que l'aimabilité du personnel. L'autre dit la rapidité du service fourni. L'autre dit le temps de confirmation des chèques. L'autre dit le taux de crédit offert. L'autre dit les modalités d'octroi de crédit. Donc, chacun se prononce sur ce qui lui ressent, ce qu'il a vécu comme expérience avec ce consommateur, avec cette institution de microfinance ou bien de banque. Donc, quand ça s'est fait ainsi, ce n'est plus que quelqu'un venu dire à votre place. Vous savez, quand on veut faire une enquête le plus souvent, on peut faire des fiches qu'on remet aux collecteurs d'informations qui vont se pavaner ou bien se promener et collecter des informations. Mais quand il faut compiler, le plus souvent, c'est fastidieux, ça devient difficile et ça devient des charges supplémentaires. Et des fois, on n'arrive pas à cerner ce que les gens disent. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, il y a des outils que nous utilisons pour faire la collecte et qui centralisent en même temps les opinions.
Ça veut dire que si quelqu'un répond à ces questions déjà à travers le lien que vous envoyez, automatiquement, ça vient chez vous.
Ça vient de la base de données ici à Lomé. Mais dans tout le continent, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au Maroc, que tu sois en Ouganda, que tu sois au Kenya, puisque nous avons des collègues, des responsables, des membres dans ces pays-là. Automatiquement, que vous choisissez, même vous choisissez la langue anglaise, vous répondez, ça vient en anglais, mais automatiquement dans la base, ça devient en français. Et on va traiter, et on peut aussi traiter en anglais pour qu'on ait deux versions de ce rapport. On n'a pas fait en version unique, non, nous ne sommes pas seulement que dans deux types de pays, d'ailleurs, francophone et anglophone. Il y a l'usophone, mais les années à venir, on pourra les réagir. Mais pourquoi pas les arabophones, pour que tout le monde se sente impliqué et réponde efficacement aux questions. Et la période, l'enquête va durer 2 mois. C'est vrai, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose de lapidaire pour dire qu'on va lancer. Parce que ce n'est pas aussitôt que nous lançons que le lien va arriver à la plupart des citoyens du continent pour qu'ils puissent répondre. On n'attend pas plus de 50 millions d'Africains pour remplir. Non, on attend le minimum maximum. Quand je l'ai dit ainsi, je sais que les auditeurs peuvent comprendre.
C'est-à-dire l'échantillon.
L'échantillon représentatif, par exemple. Et qui reflète l'opinion dans ce pays. Et donc, c'est pour ces raisons que nous disons que il faudrait qu'on puisse l'étendre sur 2 mois. Hier, c'est le 12 octobre. Le 12 août,
oui.
Donc ça va prendre fin le 12 octobre. L'histoire qu'on puisse prendre est le mois d'octobre pour élaborer le rapport et probablement faire la publication lors d'une conférence de presse, ça peut être au Togo ou bien ça peut être dans d'autres pays de la sous-région, pour publier le rapport et que chaque pays puisse prendre, domestiquer, agréger, c'est-à-dire que quand on veut les informations du Togo, on aura les informations du Togo. Quand une microfinance veut avoir les informations qui la concernent, on peut l'extraire pour qu'elle ait les informations qui la concernent. Ainsi de suite pour les banques. Vous savez, une institution financière, pour faire une enquête, ce sont des millions qu'elle dépense. Mais aujourd'hui, quand elle participe à cette enquête, nous, on leur a déjà écrit pour leur envoyer le lien. Et il y a d'autres qui nous ont répondu favorablement. Et je crois que elles sont d'accord pour prendre part à cette enquête. On leur enverra le lien. Elles vont diffuser ces liens sur leur canal habituel et les envoyer à leurs clients. Quand vos clients sont nombreux à remplir, à participer à cette enquête, plus vous donnez, ils donnent le point de vue, l'opinion le plus approprié à votre institution. Et sur la base de ça, vous allez faire des, vous allez mettre en œuvre les recommandations qui peuvent vous en sortir. Mmh. Et alors, vous ne dépensez pratiquement rien. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande, on ne prend aucun rôle d'aucune institution financière ni d'aucun partenaire. Nous faisons ce travail bénévolement et gratuitement. Nous mettons notre énergie au profit des consommateurs. Et c'est pour ces raisons, vous voyez, quand on déploie ces énergies, quand on s'investit davantage comme ça, et des gens ne savent pas de la manière dont nous investissons, ça arrive des fois que ça commence par énerver.
Mais dans tout cas, et ça décourage aussi.
Ça décourage, mais Dieu nous donne toujours la force de ne pas nous énerver, de ne pas être découragé. Parce que personne n'est venu me réveiller à la maison pour dire, Emmanuel, il faut que tu crées une organisation de consommateurs. Que tu d'accord, on appellera Ligue des consommateurs de Go. Personne n'est venu
vous réveiller. Vous avez donné cet engagement.
Donc, c'est un engagement. Justement. On est consommateur, on est défenseur des droits de l'homme, on l'est toute sa vie. Ce sont des vertus, des convictions qui sont innées en nous et nous estimons que nos jeunes qui nous aident aujourd'hui, quand nous les céderons leur place, ils seront à même de continuer pour garder cette flamme.
Merci beaucoup, Emmanuel Sogadi. Je sais qu'il y a, au-delà même d'ailleurs de cette enquête, il y a une autre enquête lancée par la LCT. Nous allons en parler dans la deuxième partie alors de cette émission. Mais déjà, il est midi. Et midi, nous avons un impératif au niveau de la technique. Après cela, nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous rappelons juste que nous sommes avec le président de la Ligue togolaise, enfin la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, et aussi directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs, c'est bien, et Dr Emmanuel Sogadi. Nous observons une pause et nous revenons juste après.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 91 36 63 75 puisque Kiki me fait savoir que le 90 ne fonctionne pas ce matin. Donc nous allons vous recevoir sur le 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour Monsieur Gado, comment vous allez? D'accord, allez-y. Merci pour votre intervention, Monsieur Gado, 91 36 63 75, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Allô? Bonjour. C'est Sylvain. Allez-y. Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup Sylvain. 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô. Bonjour Madame ici. Le grito a mí la última vez que me dio la verdad.
Merci, madame Essi, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Allô? Bonjour. Monsieur Mawena, j'espère que vous allez bien. D'accord, allez-y. Oui. Merci, monsieur Mawena, pour votre intervention. 91 36 63 75, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, et aussi vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Bonjour, monsieur Pélé. J'espère que vous allez bien. Monsieur Pélé, allô, monsieur Pélé, c'est vous qui appelez pour ce mouvement en question? Mais on attend plutôt des organisations quand même le dire. Merci Pélé pour votre intervention. 91 36 63 75, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, aussi sur notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Mauto. Allez-y. Merci pour votre intervention, Monsieur Mauto, 91 36 63 75, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Bonjour, comment vous allez? Gérard, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est bien lui. D'accord, d'accord. Gérard, merci. Oui, M. Sogadi va vous répondre dans quelques instants. 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Bonjour Benoît, comment vous allez? Ça va aussi par la grâce de Dieu. Allez-y. Merci Benoît pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler, nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô? Oui, c'est Canal FM. Bonjour. D'accord. Votre nom c'est Kofi. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, Kofi, pour votre... Oui, monsieur Kofi, merci. Merci pour votre intervention, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont en ligne. Et on reçoit le dernier auditeur sur le 91 36 63 75. Allô? 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, Papa Sibiti. Oui, oui, bonjour, il vous répond. Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Et Papa Sibiti, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Alors, nous revenons en plateau. Emmanuel Sougadi, vous avez écouté les uns et les autres. C'est vrai, il y a des gens quand même qui ont fait des contributions et des gens sont et certains d'autres plutôt ont réagi hein, sur un certain nombre de choses que nous avons dites ici. Oui, il y a Gérard qui posait la question de savoir... aujourd'hui, comment allez-vous faire pour que des gens puissent comprendre que la LCT, l'organisation de, qui est dans la défense alors des consommateurs, que des gens puissent comprendre exactement que mais finalement ce n'est pas une société privée alors de d'Emmanuel Sougadi.
Donc je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont appelé. Il y a Daïsi qui est la seule femme qui a appelé. Si ma mémoire est bonne.
Tout à fait.
Et les aînés, en terminant par Papa Sibiti, qui, à chaque fois où il sent que je suis sur un plateau, il se force à nous appeler, à nous encourager. Et je voudrais aussi dire que, pour la question dont tu viens de nous rappeler, nous n'avons pas d'objectif à ce que les gens sachent forcément que ce que nous faisons, c'est ça. Parce que, pourquoi je le dis, si on le fait, c'est qu'on veut que les gens, gens nous mettent en avant. Je veux toujours rester la modeste personne que je suis aujourd'hui. Mais je voudrais que eux qui comprennent puissent nous aider à faire savoir aux autres que c'est comme ça. Parce que quand lui l'a appelé aujourd'hui, je me rends compte finalement qu'il y a des gens qui savent de quoi nous pouvons être utiles et de quoi nous sommes utiles, en quoi nous sommes utiles. Et pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, moi je dis, même si Emmanuel n'est plus président de la cité demain, bien des jours qui vont venir, des années qui vont venir, ceux qui seront là, ils comprendront finalement. Parce qu'au fur et à mesure que les jours viennent, les esprits s'éveillent de tous les jours. Et donc, ce n'est pas une assemblée, bien une campagne qu'on va faire. Mais peut-être on dira à notre cellule de communication, peut-être de proposer des choses pour que ceux qui nous suivent, eux aussi, puissent comprendre et d'en parler davantage, bien peut-être dans d'autres émissions, on pourra en faire. Je crois que je suis fier que lui reconnaît qu'on fait des efforts et fier que les autres aussi reconnaissent que nous faisons. Le reste, nous n'avons pas le droit de démissionner et nous n'avons pas le droit d'abdiquer, mais nous devons demeurer tenaces et fermes dans ce que nous faisons. Parce qu'on le veuille ou pas dans ce monde, voilà. Quand vous vous découragez, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu arriver au bout de ce que vous souhaiteriez avoir. C'est pourquoi le président a demandé un coup isolé, n'arrête jamais le combat. Donc, les déceptions, les mots que des gens peuvent vous lancer par-ci. Vous savez, moi qui suis ici, quand on dit Emmanuel Sougadi, des gens ne savent pas que derrière Emmanuel Sougadi de la LCT, j'ai une autre vie professionnelle. Et il arrive des fois, même sur la vie professionnelle, je n'arrive même pas à communiquer là-dessus. Parce que j'ai interrogé un principe de telle sorte que faut pas que les gens pensent que je suis en train d'utiliser la Ligue pour avoir des avantages professionnels sur la vie professionnelle. J'ai eu une formation, j'ai eu une entreprise, ainsi de suite. Mais c'est pourquoi quand vous sacrifiez votre vie et des gens ne le savent pas, c'est le côté où ça énerve. Donc quand les gens ne le savent pas, la méconnaissance, on a le droit de me
puisque
connaître.
Puisque c'est un engagement citoyen. Alors, Emmanuel, on va s'intéresser maintenant à la deuxième enquête hein, que la LCT organise et aussi sur les liens par lesquels on pourrait rapidement participer à cette enquête. Et si vous pouvez revenir sur cela, ça nous intéresserait.
En 2024, quand on a fait l'enquête sur les banques, il y a des gens qui nous ont interpellés. Mais pourquoi ces banques, celles que vous avez faites? Il faut faire aussi l'assurance. Le secteur d'assurance nous interpelle. Et c'est une triste réalité. Ce qui se passe au niveau de l'assurance, c'est comme ils sont dans un monde conquis davantage. Et aucune société d'assurance ne considère aucun consommateur, aucun citoyen. Vous le veuillez ou pas, vous allez venir vous souscrire parce que les gens de la DSL vont vous arrêter et vous serez contraint de venir souscrire à votre assurance automobile. Vous le voulez ou pas, vous avez besoin de voyager, on va vous demander une assurance, vous viendrez toujours le faire. Vous le voulez ou pas, vous avez souscrit à une assurance santé, vous allez payer, on va prélever. Et il faut ajouter les institutions d'assurance à caractère public, c'est-à-dire l'INAM et l'assurance maladie universelle. Quand ça a commencé, nous on a fait des déclarations, on a fait des conférences de presse, les gens ont dit, on dénonce ceci. Mais nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous baser sur des spéculations à chaque fois. Et donc, c'est pour ces raisons que nous avons lancé, depuis le 4, cette enquête sur les assurances, toutes les assurances confondues, y compris l'INAM et la MU. Donc, les Togolais sont invités. Ça, c'est uniquement au Togo que nous le ferons. Peut-être l'année prochaine, les collègues vont vouloir qu'on fasse aussi, qu'on l'étende sur les autres pays. Et comment participer? Il suffit juste que quand vous avez le lien, vous pouvez aller sur le site de la LCT. Ligue des consommateurs, ou bien lcttogo.tg.
D'accord, encore une fois.
www.lcttogo.tg. Donc, quand vous allez, vous verrez dans comment participer, vous verrez le lien sur l'enquête sur les assurances. Vous cliquez, à peine une minute, vous aurez déjà fini parce que vous n'allez rien remplir. Vous cochez seulement, et à la fin, vous cliquez sur envoyer.
Alors, est-ce que c'est le même cas pour la première enquête?
C'est le même cas. Vous n'avez rien à remplir, peut-être, sauf qu'il y a une partie où on demande que vous choisissez les trois meilleures institutions de microfinance ou de banque que vous estimez, ce qui nous permettra d'encourager les institutions à avoir le challenge entre eux. L'année dernière, quand on l'a fait, c'était la Poste qui était classée en premier, suivie d'autres institutions. Bien, cette année, on souhaite que toutes les institutions, elles auront des liens. Elles vont le diffuser dans leur... Même les assurances aussi, on va les envoyer les liens là. Elles vont le diffuser dans leur réseau respectif pour que leurs membres, leurs clients puissent...
Emmanuel Sogadi, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, j'aurais voulu parler des spéculations sur les cahiers. Hein, que les gens sont en train de dire que le ministère en charge de l'éducation, du commerce, aurait décidé qu'on puisse mettre des effigies, des symboles à caractère national sur les cahiers, que les gens pensent que ça va augmenter le prix. Nous avons fait une sortie très officielle, très prochainement, mais je voudrais dire que dans les informations, la liberté de prix demeure, la liberté de choix demeure.
Le prix ne change pas.
Et le principe, c'est qu'on veut, au fur et à mesure, que les imprimeurs... C'est mieux qu'un imprimeur puisse aller faire la publicité de Ronaldo, qu'on puisse nous donner au Togo. Qu'on commence à faire la publicité de Faïd Alédio, par exemple, qu'on commence pas à faire la publicité peut-être d'une lutte traditionnelle en termes de tenue de kente, par exemple, qu'on commence à parler de l'hymne national. Hein, donc, en réalité, c'est une initiative qu'il faut encourager et je crois qu'on prendra la mesure
Merci.
Pour rendre public notre point de vue très prochainement.
Merci beaucoup, docteur Emmanuel Sogadi, d'être
Merci
passé dans cette émission. Club de la presse, bien sûr, que nous avons animé avec vous. Nous rappelons que vous êtes alors le président de la Ligue des consommateurs du Togo et aussi le directeur exécutif de l'Organisation africaine des consommateurs. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelé aussi pour vos diverses contributions hein, à ce débat. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.